tard dans la nuit, mon peuple danse. Mais c'est tous les jours comme ça.
Ils sont trop méchants. Et tu iras dans leur école.
Connaissez-vous la Martinique? Connais-tu là-bas le bongo?
Bonjour, la mer et l'outre-mer, on peut vivre au bord de la mer sans vivre de la mer. Cas bien connu chez les ultramarins, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut aussi entretenir avec la mer des relations amères liées à l'histoire. Comment dépasser ses relents coloniaux? Comment profiter de sa situation maritime tout en endiguant les trafics, à commencer par la drogue? Invité de géographes, professeurs des universités, François Taglioni, en poste à l'IRD de La Réunion, et Jean-Christophe Gay, qui se trouve, lui, à l'Institut de Recherche et Développement de Nouméa. La mer et l'outre-mer, William Cromwell commence par nous dresser le tableau, toutes régions confondues, des activités qui découlent du milieu marin, William.
Et il y a d'abord la mer qui a transporté les hommes, les Maoris en Polynésie, esclaves aux Antilles ou les bagnards en Guyane, bretons, basques, normands un peu partout ailleurs. Il y a la mer qui nourrit de la pêche d'hier aux fermes de crevettes en Nouvelle-Calédonie ou aux tentatives de fermes de thon à Hao ou de morue à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a la pêche à la crevette industrielle en Guyane et puis les bateaux de plaisance défiscalisés un peu partout aussi. Il y a la mer de l'avenir et les différents projets d'énergie renouvelable, celle qui recèle peut-être des hydrocarbures en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des nodules polymétalliques en Nouvelle-Calédonie. Il y a la mer des loisirs avec les plongées à Malendur en Guadeloupe ou à Rangiroa en Polynésie, les plages partout évidemment, les spots de surf comme à Tupo en Polynésie. Et il y a aussi la mer avec ses dangers, la mer qui prend les pêcheurs et qui se lève en forte houle, voire en tsunami.
Bonjour Jean-Christophe Gay et François Taglioni.
Bonjour.
Bon alors on va parler de tout ça, tiens, mais on va commencer par toute autre chose. Est-ce qu'il ne vous semble pas symptomatique, François Taglioni, que l'on voit des nageurs d'outre-mer comme la Guyanaise Malia Metella, la Martiniquaise Coralie Balmy, la Calédonienne Diane Buduyet, que des femmes hein, d'ailleurs, bien après les athlètes ou les footballeurs émergés sur la scène internationale?
Est-ce que vous trouvez ça étonnant? C'est ça votre question?
Oui, c'est-à-dire des champions marins arrivent bien après des champions terriens.
Oui, ça c'est peut-être la médiatisation aussi qui ne se fait pas de la même façon, parce que les nageurs en piscine, on les voit.
Hein. Jean-Christophe Gay.
Il y a une question d'équipement. Hein. À l'évidence, l'équipement ultramarin en piscine a été très tardif, et ce qui explique donc l'arrivée très tardive de nageurs au niveau international. Et lorsqu'on regarde le Pacifique, donc lorsqu'on dépasse le contexte de la France d'outre-mer, on voit que y a beaucoup de pays où on vit au bord de la mer et on n'a pas de nageurs.
Oui, donc ma question, c'est l'intérêt pour la mer, hein, François Taglioni, c'est-à-dire, par exemple, on le voit aussi avec les Antilles, les grandes courses à la voile, elles arrivent aux Antilles, elles arrivent la route du Rhum, l'Orient-Saint-Barth, mais pour autant, il n'y a pas de voileux aux Antilles, il n'y a pas de champion de voile.
Donc là, effectivement, oui, je rejoins tout à fait Jean-Christophe Gay, c'est aussi une question de moyens mis en œuvre pour pouvoir donner cette chance aux ultramarins de pleinement s'inscrire dans ces grandes compétitions qui sont extrêmement dispendieuses. Quoi.
Et sur le plan économique et touristique, les croisières, tiens, par exemple, il y a des croisières qui passent par la Nouvelle-Calédonie, il y en a qui passent par les Antilles, mais pas tant que ça. Est-ce que c'est lié au fait que même en mer, on peut être enclavé, Jean-Christophe Gay?
Oui, très probablement. Les situations insulaires sont des situations souvent d'enclavement, mais vous allez me croire ou pas, la Calédonie est devenue la première destination de croisière de la France d'outre-mer, bien devant...
Oui, mais si on la compare avec ses voisins, par exemple, anglophones.
Alors, si on la compare avec ses voisins, le Vanuatu en particulier, je crois que la Calédonie n'a pas à rougir. Dans le Pacifique Sud, la Calédonie n'a pas à rougir. Donc c'est une activité qui est émergente et qui n'est pas en crise comme le reste du tourisme ultramarin.
Alors, exception qui confirme la règle, la Nouvelle-Calédonie, cette activité-là, croisiériste, est beaucoup plus problématique, par exemple, dans la Caraïbe ou à La Réunion, François Taglioni.
Ouais, alors, La Réunion, il y a un problème de bassins émetteurs. Finalement, les bassins émetteurs sont lointains, hein, même si c'est vrai aussi dans une certaine mesure dans le Pacifique, hein, puisque c'est principalement l'Europe et éventuellement les États-Unis. Mais il faut déjà se rendre dans ces espaces lointains et ensuite faire la croisière. Donc c'est un premier problème. Dans
les Seychelles et Maurice qui sont très touristiques ne suffisent pas parce que ça n'est pas finalement des destinations de croisière.
Oui, puis il se pose un deuxième problème, c'est la distance. La distance entre les îles. Hein, pour qu'une croisière soit le mieux possible acceptée, il faut que tous les jours, à peu près, on change de destination. Et il y a un temps de mer qui est assez long, par exemple, entre la Réunion et les Seychelles. Donc faire du bateau pour faire du bateau, ce n'est pas ce qui va intéresser les croisiéristes, a priori.
Alors la pêche, elle existe aux Antilles, dans le Pacifique, en Guyane, qui a même abrité une importante flotte, en partie étrangère, pour la pêche à la crevette. Il n'empêche qu'un seul territoire en a vraiment fait sa vocation principale et historique. Avec le déclin que l'on connaît aujourd'hui, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Le dessinateur Christophe Chaboutet vient de sortir chez Vent d'Ouest une BD intitulée « Terre Neuva ». Il explique sa motivation en se lançant dans cet album.
C'est même pas le côté Saint-Pierre-et-Miquelon qui m'intéresse, c'est encore et toujours pareil dans mes bouquins. C'est pas le but qui m'intéresse, c'est le chemin. Voilà, et c'est le chemin de ces gars-là. C'est la pêche en mer qui m'intéresse, c'est pas la finalité, quoi. Et c'était des conditions terribles, ils bossaient dans des conditions terribles, ces gars-là, quoi. C'est une espèce de germinal de la mer, quoi. C'est incroyable. De toute la documentation que j'ai eue, de tous les bouquins que j'ai lus, ils avaient une vie de fou, quoi.
Alors la pêche, comme l'agriculture aujourd'hui, elle ne peut se pratiquer qu'à grande échelle, finalement, François Taglioni.
Effectivement, ces secteurs ont perdu, enfin, en tout cas pour l'agriculture, on connaît la crise de la banane et de la canne à sucre, qui est pour le moment pas encore complètement sur le tapis, mais on va y arriver, puisqu'on sait très bien que ce sont des protocoles, une économie de type encore de plantation aujourd'hui au XXIe siècle. Donc il y a un certain archaïsme agricole aujourd'hui que de cultiver de la canne à sucre. Et donc ces marchés qui ont été protégés pendant des siècles ne le seront plus bientôt et ça posera un problème. Ça fait longtemps qu'on l'annonce, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais
et ça va finir par s'arrêter.
Ça finira par s'arrêter le protocole, même s'il a été prorogé encore, ça ne continuera pas. Quant à la pêche, historiquement, effectivement, vous le rappeliez, les ultramarins français d'une certaine manière tournent le dos à la mer pour la plupart, et donc il y a, ou alors c'est vraiment un niveau artisanal, et on n'a jamais réussi à dépasser ce niveau artisanal pour la pêche. Donc on ne peut pas dire que pour le moment il y ait vraiment un créneau que l'on soit capable de saisir.
Et la pêche, si on reprend ce que nous disait le dessinateur Chaboutet, est-ce que finalement comme activité de masse elle n'a pas un peu vécu par sa dureté qui va mal avec les attentes de l'époque moderne?
Probablement, mais je voudrais quand même rappeler que dans le Pacifique, il y a une pêche artisanale basée sur une activité traditionnelle, ancestrale, et qu'on trouve en Polynésie, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Il faut bien voir que le monde mélanésien, on a tendance à faire l'opposition entre le monde polynésien tourné vers la mer et le monde mélanésien tourné vers la terre. Bon, cette opposition, elle est largement artificielle. Les deux mondes, polynésien et mélanésien, sont tournés vers la mer, et il y a encore aujourd'hui une activité artisanale de pêche importante.
Est-ce qu'il y aurait intérêt à développer des flottes, tiens, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, des flottes industrielles, et éventuellement pour y pêcher quoi, d'ailleurs?
En Polynésie, la flotte industrielle existe. Elle n'est peut-être pas suffisamment développée, mais elle existe.
Si on a pratiqué la surpêche à la morue, hein, par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour en rester à ce territoire, François Taglioni, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on pratique la sous-pêche dans des endroits comme la Réunion, par exemple?
Alors, il y a aussi peut-être des idées reçues, hein. Il faut savoir que ce ne sont pas des eaux spécialement poissonneuses. Autant aller dans le Grand Sud, du côté de l'Antarctique, là on va pêcher la légine. Hein. Les Français ont fait une spécialité que de pêcher la légine, qui d'ailleurs part exclusivement vers le Japon. Hein. C'est-à-dire que les Français ne connaissent pas ce poisson, parce qu'on ne le consomme pas, ou alors très peu. On a la chance à La Réunion d'en avoir quelques miettes parfois, mais voilà. Donc il y a ce problème déjà, je pense, de la qualité des eaux, enfin en tout cas de la richesse des eaux en ressources halieutiques. Et dans la Caraïbe, c'est un petit peu aussi similaire. Et puis je crois que aussi c'est culturel. Hein. Jean-Christophe Gué soulignait qu'en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, on a un rapport à la mer qui est peut-être plus simple. En tout cas, on est davantage tourné vers la mer. Mais ce sont aussi des peuples, on va dire, autochtones qui sont là depuis 10 000 ans, qui ont toujours été installés dans ces eaux.
Qui sont arrivés par la mer de leur propre gré.
Absolument. Alors que dans le cas des Antilles ou de la Réunion, il y a un rapport à la mer qui est complexe, parce que c'est aussi l'histoire d'esclavage, hein, toujours cette traite qui s'est faite par la mer.
Le professeur de l'université de Nantes, Jean-Pierre Corlet, qui s'intéresse à l'aquaculture, a confié à William Cromwell qu'il verrait bien se développer ce mode de production piscicole outre-mer.
Je crois que ça vaut le coup, mais il faut trouver les bonnes filières. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut trouver des bonnes filières. Et il y a sûrement des filières de poissons tropicaux. Hein. On a développé certaines filières comme la crevette, comme la chevrette, là déjà, dans ces dom-toms de la zone chaude. Mais je pense qu'il y a des possibilités. Mais là, il faudrait peut-être éventuellement aussi s'inspirer d'un certain nombre de modèles d'autres pays, des pays asiatiques par exemple.
Alors Jean-Christophe Guay, est-ce qu'on va assister au remplacement de la pêche en mer par de la production de poissons en bassin?
Alors l'aquaculture, en particulier en Nouvelle-Calédonie, est bien développée, mais il y a le problème du débouché de la production.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poissons, justement, aquacoles, si on peut dire, mais on ne sait pas quoi en faire.
Ben, c'est la crevette, hein, surtout. Mais bon, on a un petit marché.
Qui arrive quand même sur les supermarchés hexagonaux, par exemple.
Qui peut arriver sur les marchés hexagonaux, mais qui, quand même, par rapport à d'autres productions plus proches des grands marchés de consommation, qui est quand même défavorisé par l'éloignement.
Est-ce qu'il n'y a pas toujours un problème de label, c'est-à-dire qu'il faudrait faire de cette crevette quelque chose d'extraordinaire? Mais peut-être ne l'est-elle pas extraordinaire, j'en sais rien, répondez-moi.
Bah écoutez, je pense qu'elle est de qualité, mais je pense que la question du coût est capitale.
Est-ce que vous voyez des problèmes culturels pour le développement de ce secteur primaire qu'est la pêche, François Taglioni, dans des pays qui depuis longtemps sont tournés vers le tertiaire, comme l'administration, les services?
Il y a cette dimension-là, mais je reviendrai juste un instant, parce que vous parlez de culturel, il y a aussi un fait qui est avéré, c'est que dans les outre-mer français, globalement, on consomme peu de poissons. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que par habitant et par an, on consomme moins de poissons dans les outre-mer qu'en France métropolitaine, pour la plupart des États.
On l'explique, ça ?
C'est un peu, ça se mord la queue, hein, dans la mesure où il faut savoir que ce sont des pays qui importent du poisson. Donc à partir du moment où on l'importe, eh bien, ça suppose un coût et donc le poisson peut être parfois plutôt cher. En tout cas, dans la Caraïbe et dans l'océan Indien, on n'est pas forcément tourné vers cette denrée.
Sylvain Mermel, géomaticien, oui, à l'Ifremer, rappelle la taille que la France doit à l'outre-mer sur la carte des océans, une zone économique exclusive qui pourrait encore s'accroître avec le programme Extraplaque.
La France a la deuxième plus grande ZEE au monde, 10 millions de kilomètres carrés. On se situe après les États-Unis et avant l'Australie, donc une surface maritime colossale. Et là, potentiellement, dans le projet Extraplaque, ces ZEE seraient étendues au plateau continental jusqu'à 350 000. Ça représente une surface de ZEE plus plateau continental de 2% en plus sur la surface du globe. Pour l'instant, on n'a pas la technologie pour aller à ces profondeurs-là. Donc on peut avoir une première optique qui est dire « attendons d'avoir la technologie et potentiellement ces zones nous enrichiront ». La deuxième optique peut être de dire « ces zones, potentiellement, si on en a la gestion, on pourra les préserver ».
Alors on va parler des extraplaques, mais d'abord cette zone économique exclusive de la France qui en fait la deuxième puissance mondiale, ce royaume français des mers, entre guillemets, est-ce qu'il n'est pas entre les mains, François Taglioni, d'un roi fainéant qui ne s'en occupe pas?
Je dirais que c'est assez général. Les ZEE, pour moi, sont des espaces plus théoriques que réels, en termes en tout cas d'exploitation économique. On se limite généralement à une zone qui est beaucoup moins vaste que la ZEE, les 200 000 marins. Donc c'est vrai que c'est sous-exploité, mais ce n'est pas spécifique au cas français.
C'est pareil pour les Américains et les Australiens, dont nous parlait Sylvain Bermel.
Je pense que c'est pour moi assez potentiel, parce que ça a un coût aussi exploité dans des profondeurs importantes. Pour le moment, ce n'est pas encore suffisamment rentable pour aller chercher une nodule polymétallique dont on parlait tout à l'heure. Peut-être qu'un jour, on ira, mais pour le moment, finalement, le pétrole ou certaines énergies premières sont encore suffisamment bon marché, même si elles sont de plus en plus chères.
Alors, ces nodules polymétalliques dont on parle beaucoup en Nouvelle-Calédonie, par exemple, Jean-Christophe Guay, le pétrole dont on parle pour Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Guyane, c'est des vieux rêves, des vieux fantasmes qu'on a envie d'agiter, auxquels on a envie de croire, où il y a une réalité potentielle, effectivement, quand toute source d'énergie sera devenue très chère ailleurs.
Je crois que la France a eu raison de se lancer, bien qu'elle l'ait fait avec retard, de se lancer dans ce programme d'extension de la zone économique exclusive, donc avec ce programme extraplaque. Et je crois qu'il ne faut pas... Il ne faut pas considérer cette extension comme une sorte de luxe que l'on en ferait un peu contre son gré, parce qu'il est possible que dans quelques décennies, vu le contexte d'évolution des sources d'énergie, eh bien, ça soit très intéressant d'avoir des richesses, même très difficiles à exploiter.
Mais alors, il va y avoir des contestés territoriaux en termes de plateau continental. Hein, il y en a déjà avec le Canada. La France n'est pas très forte pour gagner les contestés territoriaux historiquement. Elle en a perdu beaucoup. Est-ce que cette fois-ci, elle est mieux armée?
Le programme Extraplaque, c'est un programme quand même qui permet de neutraliser ces questions de contestation frontalière. Donc je pense qu'il faut s'engager à fond et très prochainement.
François Taglioni, si certaines terres d'outre-mer s'avéraient riches des ressources sous-marines qui les entourent, est-ce que ça ne risquerait pas finalement de modifier à terme leur relation avec l'Hexagone ?
Difficile de d'y répondre, puisqu'on ne sait pas exactement quelle est cette potentialité. Donc, Je ne pense pas, parce qu'après, il faut avoir les moyens d'exploiter ces zones économiques exclusives. Donc, je ne suis pas certain que les territoires ultramarins, même s'ils accédaient à une ZEE encore plus importante, pour autant, ils auraient la possibilité d'en tirer tout le parti économique.
Après, ils peuvent avoir une économie du type Émirat, par exemple.
Oui.
Bon,
là, c'est un petit peu de la science-fiction, mais pourquoi pas.
C'est de la géographie-fiction.
Exactement. Le point de départ de cette émission, et on y revient, c'était l'Outre-mer et la mer. Laurent Carouet, inspecteur général de géographie, poteau mitant du Festival de Saint-Dié, s'intéresse d'abord à ce mot même d'outre-mer.
Il y a l'outre-tombe, il y a l'outre-terre hein, dans certains pays. Donc l'outre-mer, d'ailleurs c'est une appellation générale, les Portugais, les Espagnols l'ont aussi utilisé. Alors le problème après c'est la distance que représente cette outre. Je pense par exemple à toute la stratégie sur les îles périphériques de l'Union Européenne hein, ou les territoires périphériques. Il est clair que les Canaries ou Madère ne sont pas forcément considérées comme l'outre-mer et qu'il faut vraiment là une distance maritime tout à fait considérable. Et je pense en particulier aux Antilles ou à la Réunion pour que la dimension outre-mer soit vraiment labellisé.
Alors les Antilles ou la Réunion, ne parlons pas de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie. Dans cette outre qui veut dire au-delà, Jean-Christophe Gay, est-ce qu'il n'y a pas un côté hors-champ ?
Il y a un côté hors-champ, mais je voudrais rappeler que le Groenland fait partie des pays et territoires d'outre-mer aux yeux de Bruxelles et ce n'est pas si loin de l'Europe continentale.
Et si la Corse, en revanche, n'entre pas dans la catégorie outre-mer, c'est faute de distance, justement, avec l'Hexagone ?
Malgré tout, il y a une distinction entre la Corse et le reste de la France, puisqu'on parle de Corse et continent.
Oui, mais pourtant la Corse est française, par exemple, depuis beaucoup moins longtemps que la Réunion, que les Antilles, que la Guyane.
Effectivement, mais il y a eu des programmes de continuité territoriale qui ont été développés pour la Corse et il y a eu aussi et surtout des flux de personnes très importants depuis des siècles entre la Corse et le continent.
Mais alors du coup, le côté perdu en mer, la distance hein, dont nous parlait Laurent Carouet, est-ce que ça n'est pas aussi perdu pour les politiques publiques, perdu en termes d'intérêt finalement l'outre-mer et du coup les mers qui entourent ces outre-mer?
Je crois pas finalement, parce qu'on voit qu'il y a un intérêt vraiment très important pour d'ailleurs, moi, j'aurais tendance à dire les outre-mer, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais il me semble que l'outre-mer au singulier, c'est un petit peu réducteur, puisque tous les cas sont quand même parfois très singuliers.
Oui, apparemment, ce débat sémantique est gagné par les partisans du pluriel. Il y a un certain Thierry Michalon qui, lui, prône le singulier, mais les outre-mer semblent se répandre de plus en plus, oui.
Oui, il me semble que ce sera une possibilité. Ouais.
La France, pays continental, hein, contrairement à l'Angleterre, est-ce que ça aussi, ça forge pas une espèce d'approche très différente de la mer et du rapport que l'outre-mer peut entretenir avec les mers environnantes, François Taglioni ?
Disons que la France, pays continental, certes, mais avec un empire marin au cours des siècles qui a toujours été important, et je crois que finalement, la France a bien intégré cette dimension ultramarine. Il peut y avoir bien sûr des différences dans la gestion entre le Royaume-Uni et la France, mais je ne pense pas que ce soit lié au fait que la France soit continentale par elle-même. Ça serait sans doute un peu simpliste.
Le professeur d'Université de Paris Diderot, Christian Grataloup, s'intéresse aux routes maritimes et constate que celles tracées historiquement entre l'Europe et les régions tropicales avaient une fonction unique d'approvisionnement.
Il faut comprendre tout simplement une chose assez élémentaire, c'est que les Européens en général, dont les Français particulièrement, se sont intéressés aux régions où ils pouvaient faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire chez eux. Alors qu'ils ne pouvaient pas faire sur le plan naturel, c'est-à-dire dans un milieu tropical, faire pousser des choses qui ne poussaient pas dans une région tempérée qu'était l'Europe. Ce qu'ils appelaient autrefois les épices, l'un des épices importants, c'est le sucre.
Alors pourquoi les routes maritimes coloniales, François Taglioni, n'ont-elles jamais pu devenir des routes commerciales de pays producteurs, une fois qu'on avait dépassé le stade de la colonisation, de pays producteurs à pays consommateurs?
Elles le sont d'une certaine manière. Il y a quand même des routes aujourd'hui encore. Hein. Il faut pas minimiser, même si effectivement les Outre-mer sont parfois un petit peu à l'écart des grandes routes internationales. Mais pour autant, il y a quand même des liens très forts qui unissent toujours les Outre-mer avec l'Europe, on va dire d'une façon générale. Donc ces routes sont bien là. Maintenant, après, c'est aussi lié à la production elle-même. Les productions en général, d'ailleurs, pas forcément que
première secondaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la banane, c'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment de production qui répondent à des besoins des pays consommateurs. producteurs ?
Ça, ce serait surtout vrai pour la canne à sucre, plus que pour la banane. Parce que l'Europe produit très peu de bananes. Elle en produit un peu dans certains coins, mais elle en produit pas beaucoup. Alors que le sucre, vraiment, pour le coup, aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce qu'il y a des choses qui ont pris le relais. On sait très bien, d'abord, bien sûr, la betterave, et puis les sucres de synthèse. Donc aujourd'hui, les pays du Nord, en général, n'ont que peu besoin de sucre, si ce n'est pour certains produits raffinés. Mais vous voyez, c'est plus. D'ailleurs, on cherche par tous les moyens à transformer les exploitations de canne à sucre en autre chose que du sucre. Hein. Alors, à faire de l'énergie première à partir de la canne.
À force de crise du capitalisme, à force de crise de la mondialisation, Jean-Christophe Guay, est-ce que pour vous, on va vers un nouvel équilibre mondial de ces relations dites entre pays riches et pauvres, entre pays chauds et froids ?
Probablement qu'on va vers un monde plus multipolaire. Et donc émergent actuellement des pôles secondaires. Et peut-être que la chance de l'outre-mer aujourd'hui, ça serait de se positionner par rapport à ces pôles secondaires qui émergent. Je pense en particulier à toute l'Asie orientale, peut-être à l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour le Pacifique. Je pense peut-être à la chance pour la Guyane ou les Antilles d'être à côté du Brésil.
Et le géographe que vous êtes, il les range où finalement ces territoires d'outre-mer dans les pays du Nord ou du Sud ?
Bah écoutez, c'est à l'évidence dans les pays du Nord que je les mettrai, avec un certain nombre de bémols.
Oui, comme quoi il y a de quoi être un peu déboussolé hein, si on s'en tient simplement aux points cardinaux. La géographie physique finalement est devenue tout à fait secondaire pour le géographe.
Pour la compréhension de ces espaces-là, oui, et d'ailleurs, elle est déroutante pour nos collègues anglo-saxons qui ont du mal à comprendre le fonctionnement de nos outre-mer.
Les routes maritimes, c'était aussi celle des corsaires, c'était aussi celle des pirates, c'était aussi celle de la flibuste. Est-ce que c'est dans le droit fil des choses que, pour ce qui concerne la Caraïbe, elle puisse être aujourd'hui les routes de la drogue ?
Je crois que c'est les routes de la drogue parce qu'il se trouve que les consommateurs sont au nord, les producteurs sont au sud et qu'effectivement au milieu, et le bassin Caraïbe est une interface, notamment pour ça, oui.
La mer, c'est aussi un chemin pour l'immigration clandestine. Ça explique que les autorités s'en méfient de cette mer.
Si on se réfère effectivement au cas de Mayotte, je répondrais oui. Alors on voit à Mayotte les trésors que l'on déploie pour essayer de contrer la pression migratoire de l'archipel des Comores. On est aujourd'hui dans une dynamique vraiment de fermeture et on voit très bien d'ailleurs l'évolution statutaire de Mayotte, cette intégration plus forte encore dans l'Union européenne et dans la France. Il est certain que c'est à mettre en relation avec cette pression migratoire. Oui.
Pascal Bulléon, le co-auteur de Emerging Caribbean, un livre de géographie politique publié en anglais, répond sans embâge quand on lui demande si les Caraïbes françaises tirent quelque avantage économique de leur position maritime.
Pas du tout. C'est un des endroits de grands passages mondiaux avec Panama. Mais les retombées locales, en dehors des marges et les marges du bassin, c'est entre autres les grands ports du sud des États-Unis qui là en retirent avantage parce que ce sont des points d'émission et de réception dont la portée est mondiale. Mais le bassin lui-même en retire extrêmement peu. Et c'est d'ailleurs un des enjeux de coopération, en dehors d'autres aussi importants tels qu'environnementaux, c'est de tirer avantage des liens et commerces internationaux.
Alors on n'en tire aucun avantage. Comment est-ce qu'on peut en tirer avantage ? Comment faire fructifier sa position géographique quand on est une île d'outre-mer ou un territoire comme la Guyane, François Taglioni ?
C'est un peu un serpent de mer, là aussi, c'est cette idée de la coopération régionale. Ça fait des décennies qu'on nous parle de faire de la coopération régionale pour enfin intégrer les outre-mer français dans leur environnement naturel. Mais on voit qu'il y a des obstacles très importants, des obstacles souvent d'ordre institutionnel, du reste, et puis économique aussi, parce qu'il y a un tel...
D'où changement de statut, il faut changer les statuts, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus ces limitations administratives et politiques.
Mais c'est pas qu'une histoire de statut, c'est aussi une histoire économique de coûts de production. Les coûts de production sont très élevés, donc à partir de là, il est difficile ensuite de valoriser les produits d'exportation dans la zone. Ça, c'est pour la dimension économique. Et puis, au-delà de la dimension économique, en termes culturels aussi, souvent, les Outre-mer sont isolés. Ce sont des enclaves francophones, souvent dans des espaces qui ne le sont pas, avec un régime effectivement institutionnel très spécifique qui fait qu'on les met un petit peu à la marge. Les autres pays qui sont d'ailleurs aussi très souvent indépendants ont du mal à intégrer des espaces qui sont encore dépendants de métropoles.
Alors une question qui se pose pour la Nouvelle-Calédonie de manière différente, hein. C'est vrai qu'il y a le Forum du Pacifique, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'organisations où la Nouvelle-Calédonie y est sans y être, c'est vrai que son statut lui permet des choses qui ne sont pas autorisées au département d'outre-mer, et pour autant la coopération régionale n'est pas mirobolante non plus.
Non, elle n'est pas mirobolante, mais je crois que bon, le statut ne fait pas tout. Et que pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait des complémentarités entre les territoires. Et bon, ce n'est pas le cas actuellement.
Post-scriptum de Pascal Bulléon, également directeur de recherche au CNRS et professeur de géographie à l'Université de Caen. Il conclut sur la relation ambivalente que l'outre-mer entretient avec la mer.
Dans cet outre-mer, on a des alliances de contraires dans les relations à l'élément liquide, qu'est la mer, à la fois liaison, écart, difficulté, parfois répulsion. Là, c'est ni spécifiquement français, ni spécifiquement espagnol ou anglais, c'est partagé. Et c'est une des caractéristiques de cet espace avant tout de mer, parsemé d'îles, et dont les relations entre elles sont particulièrement difficiles, de façon contemporaine, cloisonnées, justement, parce que cette mer fait obstacle entre ces entités. Elle fait plus obstacle entre les entités qu'entre ces petites entités et leurs anciennes métropoles.
Oui, alors vous nous disiez, hein, en gros, François Taglioni, coopération régionale du vent, on parle de ça depuis tout le temps et rien ne change, mais cette mer frontière avec ses propres voisins, est-ce que la France n'est pas en train de le payer cher en termes de continuité territoriale, par exemple, là où les fournisseurs pourraient être juste à côté?
Mais est-ce qu'on a vraiment cette volonté aussi? Est-ce qu'on a vraiment envie que les outre-mer français se fournissent dans les pays limitrophes? J'en suis pas certain.
C'est-à-dire que l'outre-mer est aussi un marché pour l'Hexagone?
Il me semble que ce qui s'est passé au cours de cette année 2009, en début d'année, aux Antilles françaises le montre, oui. Il y a des situations monopolistiques qui font monter les prix très haut. Et le mécontentement, me semble-t-il, est en train d'être de plus en plus présent. Donc oui, je crois qu'il y a des gens qui prospèrent sur ce présupposé, à savoir que la discontinuité serait facteur de cherté. Mais je pense que là aussi, ce n'est pas aussi simple.
Jean-Christophe Gay, dernier mot sur la Nouvelle-Calédonie, qui a sa propre politique, en particulier dans le domaine maritime. Est-ce que cet élément est justement bien pris en considération par les élus locaux?
Je le pense, oui. Notamment la question de l'extension de la zone économique exclusive. Et puis, bon, vous savez qu'actuellement, il y a une sorte de conflit avec le Vanuatu à propos de certaines îles qui se trouvent donc au sud-est de la Calédonie. Et je crois que bon, les pouvoirs publics, on voit bien l'intérêt qu'il y a à valoriser cette zone économique exclusive et à se battre pour sa définition actuelle.
Merci à tous les deux. Merci également à William Cromwell et Nicolas Palcossian. Au revoir, à la semaine prochaine.